la Commission biblique pontificale reprend ces 12 manières. Eh bien, nous allons faire connaissance un peu avec ces différentes manières, et nous verrons, pour le même texte, ce qu'ils peuvent nous apporter. Je vous note le résumé. Il y a d'abord la méthode chevronnée, utilisée depuis 2 siècles, par d'innombrables auteurs et exégètes, ce qu'on appelle la méthode historico-critique. Depuis le père Lagrange, et avant d'ailleurs, depuis Loisy, Renan, etc., et avant eux les Allemands, depuis 2 siècles, on essaie de critiquer historiquement la Bible. Est-ce que ça s'est vraiment passé? 1. Est-ce que ça s'est passé comme ça? 2. Vous voyez? Ce sont les questions que l'on pose généralement. Ça s'est passé comme ça. Et souvent, on lit le texte de façon lisse, comme si c'était les choses, une photographie ou une vidéo. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, après cette méthode historico-critique, la méthode par l'histoire, bien sûr, si on parle du passé, il y a une histoire. Je vous ai même dit qu'il y avait une histoire. Mais c'est dans un livre que ça se passe. Ce n'est pas dans l'histoire que ça se passe. C'est qu'est-ce que le livre nous dit et comment nous dit-il que les choses se sont passées dans l'histoire. Il y a une référence à l'histoire, mais on l'écrit d'une certaine manière. Et de même qu'on écrit un journal à partir d'articles différents, ayant des perspectives différentes, la Bible est une bibliothèque où chaque livre, et même chaque partie de livre, a son objectif. Et alors, deuxièmement, 3 nouvelles méthodes d'analyse littéraire. Elles ne sont pas tout à fait nouvelles, il faut dire, parce que les pères de l'Église les utilisaient déjà. Mais enfin, on les remet en honneur aujourd'hui. 3 nouvelles méthodes d'analyse littéraire. Et vous voyez, ici, il y a l'analyse littéraire. C'est une littérature. Donc, on peut l'analyser comme on analyse une littérature. L'analyse rhétorique, la rhétorique est faite pour persuader. On vous dit quelque chose pour vous convaincre de quelque chose. La rhétorique, ça c'est l'art. On ne dit pas les choses de façon lisse ou de façon objective, comme nous dirions aujourd'hui, mais on les dit de façon persuadée. Donc il y a une visée rhétorique. L'analyse narrative, ça... Tous les catéchistes, tous les parents et les grands-parents savent ce que ça veut dire. Ils n'ont pas toujours réfléchi sur la manière dont ils le font, mais ils savent ce que ça veut dire. Raconter une histoire à des enfants. C'est extrêmement important. Car si la rhétorique s'adresse à des gens, bien sûr, mais un peu de l'extérieur, le récit est un dialogue. On raconte pour comprendre ensemble quelque chose. Et pour faire percevoir à l'enfant un certain nombre de choses qu'il porte déjà en lui-même et qu'il va trouver dans la vie. On raconte. Mais on ne raconte pas de n'importe quelle façon. Tout le monde sait bien qu'un récit, une bonne BD, doit avoir des suspens. On ne va pas tout dire, on ne va pas vous donner la réponse tout de suite. On va utiliser tout un cheminement. Il faut faire passer la personne, l'auteur essaie de faire passer la personne, par tout un chemin, le sien ou un autre. L'analyse narrative. Et puis, 3e méthode moderne, dite moderne, mais les rabbins l'utilisaient déjà dès l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'analyse sémiotique. Sémiotique, ça veut dire ce qui fait signe. Un signe. Faire signe, un séméon en grec, sémiotique. Et là, on essaie de voir, à partir de la structure d'un texte, on essaie de voir, tiens, quelle est l'importance des différents termes, des différentes idées, comme nous disons, des thèmes qui interviennent dans ce texte. trois nouvelles méthodes, très anciennes par ailleurs. Déjà, Aristote nous donnait les règles de la rhétorique, d'une bonne rhétorique. C'est vrai que l'intérêt pour le récit est plus moderne, mais les pères de l'Église, sans faire de la théorie, le faisaient déjà. Voilà. Méthode historique et critique, puis trois nouvelles méthodes d'analyse littéraire, cette fois-ci. Puis trois approches basées sur la tradition. Intéressant. La tradition juive et chrétienne ont aussi des choses à nous apporter. Tradition juive et chrétienne. Et alors, on appelle généralement l'approche canonique, c'est-à-dire les rapports entre les livres de l'Écriture elle-même. Il y a des rapports. Il y a des schémas. Il y a ce que j'aime bien appeler des suites. Vous trouvez le même thème qui revient à travers toute l'Écriture. Approche canonique. On appelle canonique parce que c'est à travers le canon de l'Écriture, oui, qui est une formation de la tradition aussi. Puis, deuxième approche, c'est le recours à la tradition juive. Les pères de l'Église la connaissaient beaucoup. Nous l'avons souvent oubliée, cette tradition juive. Et pourtant, elle a des choses importantes à nous apporter. Et puis, l'approche par l'histoire de ce qu'on appelle les effets du texte. Les effets du texte. Vous savez ce que c'est que faire un effet? Vous arrivez dans une réunion, costumé. Bon, ça cause un certain remue-ménage, un choc, un effet. Mais des effets, vous en faites constamment. Il suffit simplement de vous entendre au téléphone. Mais oui. C'est ça. Et puis, eh bien, tout ça, ce sont des effets. Des effets qui maintiennent le dialogue. Et qui sont souvent, si on vous entend souvent au téléphone, vous entendrez ce qu'on appelle les indicatifs, comme à la radio ou la télévision. Il y a des indicatifs. Il y a des manières de faire ou de dire. Il y en a qui disent « Allô ?»« Allô ?» Hein? Différentes manières. Ce sont des indicatifs. Vous reconnaissez très souvent une personne à la manière dont prend le cornet. Voilà. Eh bien, une étude de ces différents effets. Car il y a des effets de pareil dans le texte. Ça travaille aussi dans le texte. Mais il faut les remarquer. Et souvent, on ne remarque pas parce qu'on prend l'histoire que, comme si ça s'était passé comme ça, et on ne se pose plus de questions. Donc, vous voyez, les trois effets, les trois, l'approche basée sur la tradition, l'approche canonique, le recours aux traditions juives, et puis les effets qui apparaissent à travers toute la Bible. D'un bout à l'autre. Alors, ceci est tout à fait moderne maintenant. Trois approches par les sciences humaines. Ah, là, on s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à la sociologie, à la psychologie, à ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle. Il y a des notions qui n'étaient pas clairs autrefois et qui le deviennent de plus en plus à cause des études qui sont faites sociologiquement ou psychologiquement surtout. Et alors vous aurez l'approche sociologique. Tiens, comment ils vivaient ces gens-là à l'époque? Quelle est l'importance du cheval ou du bœuf? Je vous donne un exemple. Un de nos étudiants qui est malgache d'origine, et qui a trouvé, en lisant les textes législatifs d'Israël, il a trouvé qu'il y avait une importance assez grande donnée au bœuf ou au taureau. Chez lui, c'est une... le bœuf ou le taureau est un personnage capital, comme au Rwanda, etc. Et donc, il a fait une étude sur le bœuf, dans la Bible. Ça, c'est une étude à base sociologique. Mais vous pouvez rester à la sociologie. Mais la sociologie est l'expression d'une anthropologie, d'une manière de voir les choses. Donc il faut voir à quelle manière de voir les choses cela se réfère et pourquoi on en parle de telle ou telle manière. C'est ce qu'on appelle l'approche sociologique. Ou bien on se demandera, tiens, Paul va prêcher à Corinthe, mais à quel type de gens va-t-il prêcher? Et à partir de là, on va voir le sens que les mots qu'il utilise peuvent avoir. Puis alors, donc, approche sociologique, approche par l'anthropologie culturelle, on en fait parfois l'expérience, dans des catéchèses, vous demandez à des enfants, catéchèse de la confirmation, l'huile, qu'est-ce que ça peut signifier dans la tête des enfants? Vous posez la question à des enfants, les garçons répètent, huile, ça vous fait penser à quoi? Garage. Les filles, ça vous fait penser à quoi? Mayonnaise. Oui, mais ça, ouais, ça c'est de l'anthropologie culturelle. Ça fait penser à quoi? Quelle est votre manière de voir, d'imaginer? Évidemment, pour passer de l'onction, du garage à l'onction de la confirmation, il faut quand même faire un petit passage. C'est pas évident. Ou de la mayonnaise, d'ailleurs. Et vous voyez, c'est ça. L'anthropologie culturelle, c'est voir à quel milieu concret cela se réfère-t-il et qu'est-ce que ça signifie dans ce milieu concret. Entre, donc, sociologique, anthropologie culturelle, et puis psychanalyse. On va vous psychanalyser le texte. À quel type de psychologie, quels sont les non-dits, quels sont les termes qui reviennent, quel est le milieu psychologique qui ressort de la manière d'écrire tel ou tel texte. Vous avez des approches. Vous aurez remarqué que l'on parle de méthode d'abord, et puis que maintenant on parle d'approche. Une différence. Méthode a quelque chose de plus global, approche a quelque chose de particulier au départ. Je viens avec une question fondamentale ou une préoccupation, préoccupation sociale, préoccupation psychologique, etc. Évidemment, avec les enfants, tout ça est mêlé. Et les remarques des enfants vous viennent de tous les de tous les niveaux. Et donc il faut pouvoir faire un peu de tri dans tout ça. Alors, nous sommes à 10. Nous avons la méthode historico-critique, nous avons les trois méthodes d'analyse littéraire, rhétorique, narrative, sémiotique, nous avons trois approches basées sur la tradition, canonique, juive. Alors, les effets qui apparaissent à travers tout le texte, ce qu'on appelle l'harmonie des deux testaments, les pères de l'Église appelaient ça l'harmonie des deux testaments. Puis maintenant, vous avez trois approches des sciences humaines, sociologiques, anthropologiques et psychanalytiques. Et puis, ce qu'on appelle deux approches contextuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, on est dans un contexte, il y a des idées dans l'air, eh bien, on va partir de ces idées pour poser ces questions au texte. Il en donne deux, mais là, il y en a constamment de nouvelles. Vous allez avoir maintenant ce qu'on va appeler, avec l'approche de l'an 2000, l'approche millénariste. La fin du monde. Grande idée qui revient tous les 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de règne de 1000 ans dans l'Apocalypse. Bon, il n'en parle pas du millénarisme, c'est encore trop tôt. Il faut se trouver juste avant l'an 2000. Mais il dit l'approche libérationniste, les théologies de la libération. Bon, l'histoire d'Israël, c'est une libération, la libération d'un peuple, une libération matérielle qui est l'image d'une libération intérieure. Donc, théologie de la libération. Approche contextuelle. Autre approche contextuelle, on remet la femme en évidence, féministe. On va lire, relire la Bible du point de vue de la femme. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce négatif? Est-ce positif? Est-ce qu'on l'a toujours bien compris? Est-ce que une certaine manière de voir les choses machiste, comme on dit, n'a pas mis la main sur ces textes? Voilà. Et donc, il fait allusion, ce document fait allusion à tout cela. Ça s'est dit en termes savants. J'ai essayé de vous le dire avec le dossier de la Bible, en termes plus simples. Mais la réalité est là. Alors, nous allons essayer de faire ce petit travail, ensemble, de reprendre ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Nous n'allons pas faire systématiquement tout. Ce n'est pas possible. Nous aurions besoin d'un mois ou deux pour cela. On ne va pas faire tout. Mais on va essayer de trouver des points d'ancrage, des points d'impact, pour que vous voyez en même temps la richesse. Ces textes sont d'une richesse inouïe, et en même temps pour que vous perceviez les limites de chaque approche. On ne dit jamais tout. Je ne vais pas encore tout de suite aborder le texte, tout à l'heure, je prendrai le texte de la Genèse tel qu'il est écrit de façon littérale, parce que souvent dans nos traductions, même les meilleures, il y a, parce qu'on veut évidemment faire compréhensible, il y a des détails qu'on laisse parfois tomber, mais qui sont importants. Et pour vous dire cette importance, je prends maintenant un autre. Vous voyez, je commence par ce qui est le plus simple. Ceci est un fait et saison, à la portée de tout le monde. Le message de la Bible est à la portée de tous. Si vous voulez un peu plus de documentation encore, vous prenez lire la Bible dans la documentation catholique, il y a un hors-série. Ce sont les textes de l'Église sur la lecture de l'Écriture. C'est très bien fait, mais on n'a pas toujours le souci d'aller lire les textes tels qu'ils ont été écrits par l'Église. Et, pardon, la date, c'est le juillet 95. Juillet 95 de la documentation catholique, hors série. Donc c'est là, ils font maintenant des éditions, qu'ils appellent Questions actuelles, c'est une série, Questions actuelles. La documentation catholique, lire la Bible, une sélection des principaux textes de l'Église. C'est bien fait parce que ça met les textes de l'Église à la portée de tous. Et on se contente souvent de ce qu'il y a dans les journaux, vous voyez, mais les journaux piquent un point ou l'autre, c'est pas toujours tout.
Et la référence du fait et
saison. J'y arrive. Fait et saison, le juin-juillet 94, nous sommes dans l'actualité, numéro 486, c'est 15 grands récits de l'histoire sainte. 15 grands récits de l'histoire sainte. Et ça nous montre la tour de Babel de Bruegel, là. Ouais. Il y a aussi une approche contextuelle que je n'ai pas nommée tout à l'heure, ça m'est revenu à la tête un peu après, c'est l'approche artistique, qui est extrêmement importante aussi et intéressante, parce que ce soit dans l'art de la miniature, dans l'art des cathédrales ou dans l'art moderne, il y a, à partir de l'art, il y a moyen de découvrir pas mal de choses qui sont dans l'écriture. Et pas mal de lectures, diverses, suivant les époques, et suivant ce dont on s'inspire. Mais si vous prenez par exemple une cathédrale, là vous avez une matière extrêmement abondante pour la découverte de l'écriture elle-même. Bon, 15 grands récits de l'histoire sainte. Et le premier chapitre de ce Fête et Saison, qui est très bien fait, raconter pour vivre. On peut raconter pour faire bien, il y a des manières de raconter, un peu, une sorte de mignardise, on raconte, mais sans qu'il y ait vraiment de contenu. Mais raconter pour vivre, pas seulement pour faire vivre, mais pour vivre. Il était une fois. Et tout, dans tous les mots, disent bien ce qu'ils veulent dire. Il était une fois. Alors pourquoi tu le racontes si c'était une fois? Ah, parce que ce qui était une fois est une fois maintenant. C'est pour ça que je te le raconte. Il était une fois. C'est pas du passé, sinon je te le raconterai pas. Je te le raconte, il était une fois, et je sais que je vais piquer ton attention en te disant il était une fois, c'est parce que ça nous concerne tous les deux. Toi qui écoutes et moi qui raconte. Et puis de temps en temps je vais me taire et je vais te laisser raconter. Je vais te laisser continuer le récit. C'est ce qu'on fait souvent en catéchèse. Hein? On arrête le récit à un moment, un suspect. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et alors on laisse les enfants inventer ce qu'il va faire. Et en même temps, quand chacun vous dit la manière dont il voit ce qu'il va faire, le héros de l'histoire, il se dit lui-même. Il se dit ce qu'il estime que le héros va faire. Donc il ne dit pas seulement ce que le héros va faire, il vous apprend beaucoup plus. Il vous apprend la manière dont il voit les choses. Et donc, la manière dont vous devez continuer à raconter, en tenant compte de tout ce qu'il a dit. C'est important. À chaque fois, la formule exerçait sa magie, et nous étions là, enfants du quartier, autour de la vieille voisine. Cette dame savait nous fasciner avec les histoires qu'elle puisait dans le patrimoine de sa mémoire, de son cœur et de son imagination. Bouche bée, nous l'écoutions. Et vous savez très bien qu'à travers un récit, je me dis, je me raconte en racontant. Bouche bée, nous l'écoutions sans bruit. Elle faisait passer dans ce qu'elle racontait une foule de choses. Plus tard seulement, nous nous sommes rendus compte de tout ce qu'elle nous avait appris de cette manière. Eh bien, c'est un peu comme cela que la Bible nous raconte les choses. Elle nous raconte pour vivre. Il était une fois, en ce temps-là, la Bible raconte elle aussi. Qui n'a jamais entendu parler des fabuleuses histoires d'Adam et Ève, de Noé, d'Abraham, de Jonas, du premier jour du monde à la naissance des premières communautés chrétiennes, la Bible chrétienne ne fait que raconter. C'est très important que tout cela soit mis dans un récit. Le récit fait rapport à l'histoire, et le récit prend distance par rapport à l'histoire. Dans la manière précisément dont il le raconte. Et il ne faut pas prendre seulement, il fait rapport à l'histoire comme s'il copiait l'histoire. Alors il n'y a pas besoin de récit. Du premier jour du monde à la naissance des premières communautés chrétiennes, la Bible chrétienne ne fait que raconter. Elle décrit sur plusieurs siècles la progressive révélation de Dieu aux hommes. Et dit bien la progressive révélation de Dieu aux hommes. Et la réponse lente et sinueuse d'un peuple. C'est ça le récit. Il y a celui qui raconte et celui à qui on raconte. En nous donnant à méditer l'expérience religieuse de ces hommes et de ces femmes, la Bible pédagogiquement nous aide aujourd'hui encore à découvrir qui est Dieu et ce que nous sommes pour lui. L'écoute de la Bible n'est pas un luxe, mais une nécessité pour tout chrétien. Alors il dit des histoires célèbres de l'Ancien Testament, les histoires qui nous ouvrent sur Dieu, les récits de la Bible sont offerts à notre méditation afin de consolider notre foi.
Jean, c'est tout à fait le contraire de la gnose.
Tout à fait.
Il prend l'évangile de Thomas, il enlève tout récit.
Tout récit.
Il ne reste que les maximes.
Il ne reste que les maximes de Jésus, exactement. Mais en disant les maximes de Jésus sans lui donner un contexte, on les tire du tissu historique, c'est-à-dire de la réalité concrète. Et on en fait des idées, et donc des idéologies, finalement. Vous voyez la différence? Et donc le récit est l'essentiel. Les récits de la Bible sont offerts à notre méditation afin de consolider notre foi. Ils n'ont pas pour but de nous apprendre le déroulement exact des événements du passé, ce n'est pas le but de la Bible. De satisfaire notre curiosité, il nous donne d'abord à penser. Il faut réfléchir. Et vous verrez que dans les textes que nous allons voir, il n'y a pas du tout de choses toutes faites. Il nous donne à penser, à voir, à vivre, selon l'intelligence et le cœur de Dieu. Ce n'est peut-être donc pas si banal ou anodin d'écouter les histoires que raconte la Bible. Première histoire, celle qui nous donne ici. Un grand poème serein, large, majestueux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce chant, presque intemporel, fut composé alors qu'il n'y avait que ruines et larmes dans le peuple. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, il y a un fondement sociologique. Ce texte est né d'une volonté de dire quelque chose dans un pays de ruines. Au moment de l'exil, alors qu'il n'y avait que ruines et larmes dans le peuple, ce chant écrit en exil est un hymne d'espérance autant que de foi. Et donc, vous voyez, nous ne pouvons pas faire abstraction tout à fait de cette réalité historique dans laquelle il a été composé. Et on ne s'étonnera pas dès lors de voir des exégètes se demander, mais donc, si le premier chapitre de la Genèse a été composé après l'exil, donc vers les années 500, et a été mis en quelque sorte comme frontispice à une Bible qui existait déjà, en grande partie, mais qui était toujours en gestation, c'est qu'on a voulu faire un effet de style. On veut commencer par là, alors que ce n'est pas du tout le premier texte qui a été écrit. Mais à un moment où le peuple se demande, mais d'où vient-on et qu'est-ce que ça signifie, ce monde? Qu'est-ce qu'il signifie? Et au moment où on a déjà eu des histoires qui le racontaient, qui racontaient le monde. Donc on n'invente pas de toute pièce, on a déjà la mémoire remplie de récits que l'on a entendus à Babylone. Et à partir de ces récits entendus à Babylone, on va recomposer quelque chose de nouveau. Et donc, vous voyez, cette dimension historico-critique est importante. Non pas comment la création s'est-elle exactement passée. Là, il faudrait plutôt interroger le chanoine Lemaître ou d'autres, hein, Big Bang et autres. Et c'est un tout autre domaine. Je viendrai tout à l'heure avec un ou même deux livres qui en parlent. Donc c'est autre chose que l'on veut dire. On raconte une histoire. On ne vous dit pas comment le monde a été fait. On vous raconte une histoire dans laquelle on va vous dire un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas ce que vous imaginez quand vous entendez le récit. Donc, il y a quelque chose en dessous, c'est-à-dire une volonté d'écrire, et d'écrire quelque chose. Comment cette volonté nous est-elle donnée? Vous allez voir. Dans la manière dont on compose. Alors voilà, et c'est pour ça que je vous prends quelque chose qui est bien fait, pour vous dire, attention, hein, nous avons des éléments qui sont capables de faire réfléchir les enfants aujourd'hui. Tout perdu. Ils ont absolument tout perdu. La grande puissance étrangère de la région vient de balayer leur minuscule pays. Les Assyriens, les Babyloniens plutôt à cette époque. Leur capitale n'est plus qu'un tas de ruines. Il ne reste plus rien du grand édifice qui servait de symbole à leur unité nationale, c'est-à-dire le temple. Le temple a disparu, brûlé. Les structures politiques se sont effondrées. Il n'y a plus de roi. Leurs champs sont donnés à des étrangers. Il n'y a plus de possession du territoire. Ils ont tout perdu, sans parler des proches et amis tués au cours de cette guerre qui a trop duré. Donc, on peut imaginer qu'il y ait une réflexion sur la mort. Enchaînés, ils sont maintenant des esclaves que l'on déporte très loin de leur patrie. Voilà les gens.
Numéro 486.
Hein. Voilà des gens donc, qui ont réfléchi sur la situation. Voilà leur triste sort. Comment, dans une telle épreuve, ne serait-il pas désespéré? Voilà donc le cadre historique dans lequel on compose. Et les exégètes vous diront tous, le premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire celui qui vous dit précisément la création, hein, premier chapitre, hein, création, en 7 jours, hein, création, en 7 jours, il faut encore se demander ce que ça veut dire, c'est 7 jours, autre chose. Donc ça c'est le chapitre 1. Ils vous diront, ça a été composé après l'exil, une fois que tout était perdu. Puis on vous dira, attention, les chapitres 2 et 3, on appelle généralement le paradis terrestre et la chute, hein, l'exil terrestre. Ou péché originel, viendront sur tout ça. Mais on vous dira, ah ça, ça n'a pas été composé après l'exil, c'est-à-dire 5e siècle. Mais c'est beaucoup plus ancien. Le chapitre 2 et 3 sont beaucoup plus anciens. Peut-être que ça date de l'époque de Salomon. Donc vers les 900. Donc 10e ou 9e siècle. 9e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, évidemment. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Bon.
Et tout ça est mis dans la bouche de Moïse, pour finir.
Et tout ça est mis dans la bouche de Moïse, sauf au début. On ne sait pas qui parle. Moïse est censé avoir repris tout le Pentateuque, y compris le récit de sa mort, hein, au chapitre 34e du Deutéronome, il nous raconte comment il est mort. Hein. Et ce qu'on a fait après sa mort, évidemment. Ça compte beaucoup dans le Deutéronome. Tout ça est perçu comme étant Moïse. Et en même temps, quand on vous dit Moïse, et quand la tradition juive hein, vous dit tout ça, ça a été composé par Moïse, évidemment, le Pentateuque vient de Moïse, il vous fait un petit clin d'œil. Et quand vous lui demandez, mais qui c'est Moïse finalement? Ben, il vous dit, mais c'est Esdras, évidemment. Moïse, c'est Esdras. À telle enseigne que dans la synagogue de Doura Europos, qui a été retrouvée à la fin du siècle passé en Syrie, là, près de l'Euphrate, justement, la synagogue de Doura Europos, il y a quelqu'un qui lit la Bible. Et dans la tradition juive et puis chrétienne, les uns disent c'est Moïse, les autres disent c'est Esdras. Très juste, l'un et l'autre sont exacts. Esdras se situe après l'exil, au début du judaïsme. Hein, c'est lui qui va commencer. Et vous avez ce fameux passage au chapitre 8 de Néhémie, hein, de la lecture de la Torah dans son entier. C'est en quelque sorte le nouveau Moïse qui relie hein, l'ancien Moïse. Pourquoi dit-on c'est Moïse qui a écrit tout cela? Parce que celui qui commence, hein, certainement qui commence l'expérience de Dieu, il savait tout depuis le début et il sait tout jusqu'à la fin. Je vous disais tout à l'heure, un petit homme, il a déjà tout depuis le début, et toute sa carrière, toute sa destinée est déjà en quelque sorte préfigurée en lui. Une manière de voir l'unité de l'être humain. On vous dira, 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ, et on va faire précéder cela d'un texte bizarre du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi dans cet ordre-là? Et vous verrez qu'un certain nombre d'exégètes refusent de lire d'abord 1 et commencent par lire 2, 3. Pourquoi la Bible a-t-elle mis 1 avant 2, 3 alors que ce passage est plus récent que le premier, que le chapitre 2 et 3? Vous voyez, ce sont toutes sortes de questions qu'il faut se poser à partir de l'histoire. Il faut se les poser à partir de l'histoire. Tout perdu. Cette histoire se passait au 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, la perte, hein, 583. Les puissants babyloniens sont venus prendre par les armes le petit royaume de Juda. Vous avez remarqué comment il racontait l'histoire? Il n'a pas commencé par vous dire, il était une fois, les Babyloniens sont arrivés à Jérusalem, ils ont détruit la ville de Jérusalem. Non, il n'a pas raconté l'histoire comme ça. Il avait tout perdu. Pourquoi il raconte l'histoire comme ça? Dans un bon livre d'histoire, on vous dit les faits, hein, les faits et gestes. Non, il ne raconte pas comme ça. Parce que quand il vous dit tout perdu, c'est qui?
La raison en nous.
Ben voilà! C'est aussi bien nous. Si vous dites, en l'an 583 avant Jésus-Christ, il s'est passé ceci, vous dites, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse que ma mémoire, un livre d'histoire. Mais si vous commencez par mettre la situation devant vous, ben, vous vous sentez concerné. Voilà comment on raconte. Les puissants babyloniens sont venus prendre par les armes le petit royaume de Juda. Une petite partie de ce qui était, un peu plus de 4 siècles auparavant, le royaume respecté de David. Le temple fierté de Salomon fut totalement détruit. La population active fut exilée à Babylone. Que restait-il aux rescapés, sinon des larmes? Oui?
Il y a plusieurs à quel texte ce récit dont vous parlez maintenant?
Ben, celui du 7 et saison.
Ah!
Oui. Pour vous dire comment il parle. Je lis le texte « Fêtes et saisons ».
Il y a un apocryphe.
Pour redonner courage, si tu veux savoir l'auteur, celui qui a pris, c'est Marc Sevin. Tu vois? Et alors, ils ont choisi 15 textes, mais parmi les plus intéressants. Enfin, 15 textes, on pourrait en prendre d'autres. Et ils vont les prendre au fil du texte pour les remettre chaque fois dans leur cadre, ce que nous allons voir, le cadre historique, et puis pour commencer un travail, une étude, une analyse. Pour redonner courage à leurs compatriotes comme eux déportés, un groupe, vous voyez comment on va raconter l'histoire. Qui est-ce qui a composé ce texte de la création en 7 jours? Les exégètes vous diront le sacerdotal. C'est-à-dire l'école sacerdotale dont on ne sait pas exactement si elle a existé comme telle, mais que l'on appelle, pour faire bref, un courant idéologique remettant en honneur le judaïsme, donc les fêtes, donc la manière de vivre, donc la cacheroute, hein, la manière de vivre selon... Le mode juif, hein, les fêtes, le sabbat, etc. Le temple. La vie centrée sur le temple. Pour redonner courage à leurs compatriotes, comme eux déportés, un groupe d'anciens prêtres de Jérusalem, parce qu'ils avaient été prêtres du temple à Jérusalem, ils ne le sont plus, étant en exil, compose un poème. Ils chantent. Pour pouvoir survivre dans leurs difficultés, la naissance, la beauté, la bonté du monde. Ils chantent cela. Sur les fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Hein? Voilà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu vit que cela était bon. Vous connaissez ce poème? Vous le retrouverez en ouvrant votre Bible à la première page. On y raconte que Dieu, en 7 jours, a créé... Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel, la terre et tout ce qui l'habite. Le monde est sorti bon et beau des mains de Dieu. Tel est le credo de ses prêtres. Dieu appelle notre monde au bonheur. La détresse, la plus grande soit-elle, ne devait jamais leur faire oublier que Dieu nous appelle au bonheur. Les prêtres exilés, c'est évident, n'étaient pas là au commencement du monde. Ah. Et Moïse non plus, hein? Il ne savait pas exactement comment cela s'était passé, ni en combien de jours ou de millions d'années. Les problèmes scientifiques du Big Bang initial et de l'évolution ne se posent pas. Ce n'est pas ça qu'ils veulent dire. En revanche, ils ont des convictions profondes qu'ils veulent partager. Voilà pourquoi ils racontent à leur manière, en empruntant des images qui circulaient à leur époque, la naissance du monde et de l'homme. Vous voyez la préoccupation, c'est important de l'avoir. Mais qui est ce Dieu? Ah, ceci est peut-être intéressant. Dans ce premier chapitre, est-ce qu'on nous parle d'abord de l'homme et du monde, ou du monde et de l'homme, ou bien de Dieu? Nous commençons notre credo. Je crois en Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que nous mettons sous ces mots? Qui est ce Dieu? D'abord, c'est un Dieu tout autre que nous, et sur qui on ne peut pas mettre la main. Manière de dire la transcendance, hein? Je n'ai pas au bout de mes doigts. Non pas un petit Dieu étriqué, fabriqué pour nos besoins, et que l'on adore au premier carrefour venu. Allusion à cette multiplicité des dieux cananéens, dont vous voyez les panthéons très divers, et en même temps fort intéressant. Parce que quand vous voyez à la fois les particularités de chacun de ces panthéons, et en même temps les constantes entre ces différents panthéons, vous trouvez quand même qu'il y a une première approximation de cette présence de Dieu. L'histoire d'Israël n'est pas vierge. Elle embraye sur une réalité déjà existante. Non pas un Dieu qui se loge dans un coin de notre terre, sur une montagne ou dans une pierre. C'est le Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui a créé l'univers selon son bon vouloir. C'est le Dieu du monde entier et non celui d'un groupe, d'un pays ou d'un peuple particulier. C'est ça que le premier texte veut nous dire. Dieu. Et je vous dis, Dieu, au départ, il est connu et reconnu, le « elle » en question, la divinité, est connu ou reconnu de beaucoup de peuples. Ce Dieu si loin de nous est en même temps un Dieu proche. Comment ça? Mais il parle, figurez-vous. Dieu dit. Et ça va revenir comme un leitmotiv jusqu'à 10 fois. Pas pour rien 10 fois. Le décalogue est déjà présent, et Dieu dit. Le poème suggère aussi que la meilleure façon d'imaginer Dieu, c'est encore de regarder l'être humain. C'est ce qu'il a fait. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Les conséquences d'une telle affirmation de foi sont lourdes. Si l'être humain est l'image de Dieu, on ne peut que le respecter. On respecte normalement l'image de Dieu. Il ne peut être une marchandise. Il ne sera jamais esclave. Mais il y a déjà, dans cette manière d'être être, d'envisager, d'imaginer, la création, nous appelons la création, comment le monde est arrivé à être ce qu'il est, il y a une certaine manière. Et cette manière va être exprimée en 7 jours. Et c'est l'école sacerdotale qui va faire cela. Vous savez que le sabbat est une institution d'après l'exil. Même si, hein, on vous la met déjà de le Sinaï, le sabbat. Hein? Mais en fait, elle est devenue vraiment institution du peuple après l'exil. Jusque-là, on avait en Israël de ce qu'on appelait des néoménies, c'est-à-dire la première lune, la nouvelle lune. On fêtait la nouvelle lune chaque mois de 28 jours. Et en Mésopotamie, il y avait, semble-t-il, un cycle de 10 jours. Et donc, le sabbat, comme division du cycle de la lune de 28 jours en 4 fois, est une institution qui a été mise en œuvre, même si elle avait déjà été imaginée auparavant, elle a été vraiment mise en œuvre comme typique de la judaïté à partir de l'exil. Pour faire pièce, pour se distancer de la manière de vivre des Babyloniens. Donc 7 jours. Il y a déjà toute une composition mentale là-dedans. Un poème exprime d'autres convictions de foi. Notre monde n'est pas un tohu-bohu, le mot existe dans l'hébreu. Il n'est pas confusion. Tohu-bohu, confusion. Et donc les prêtres sont dit non, le monde c'est pas n'importe quoi. Il y a une pensée dans ce monde. Dirions aujourd'hui, il y a une intentionnalité. Il n'est pas confusion. Dieu sépare. Et ce terme, nous allons le voir cet après-midi, ce terme revient souvent, sépare. Qu'est-ce que c'est que séparer? Et le terme qu'il utilise pour dire séparer, c'est pas seulement couper, c'est pas seulement opérer n'importe quelle séparation, c'est une séparation bien particulière qui a une connotation sacrée. Comme on sépare une partie qui va être consacrée parmi les offrandes d'une autre partie qui va être distribuée à la foule. Dieu sépare la lumière de la nuit, la terre de la mer. Autrement dit, Dieu établit des différences. La confusion, tout est le même. Et ici, il établit des différences. Et l'être humain aussi participe à cette différenciation, puisqu'il